Merci de votre fidélité et bienvenue sur Radio Orient. Il est tout juste midi, le point de l'actualité avec vous, Nadia Bencher. À la une de l'édition de ce jeudi 16 avril, une rencontre entre les dirigeants libanais et israéliens annoncée par Donald Trump. Beyrouth assure qu'aucune information n'a été transmise en ce sens. Sur le terrain au Liban, l'armée israélienne poursuit ses attaques. 3 secouristes ont été tués ces dernières 24 heures. Vers une reprise des discussions entre l'Iran et les États-Unis, une délégation pakistanaise est actuellement à Téhéran en ce sens. Les Iraniens affirment qu'ils n'accepteront pas de pourparlers sous seule condition américaine. Dans le dossier du jour, nous reviendrons sur le bras de fer qui oppose Iraniens et Américains autour du détroit d'Ormuz et l'analyse de Kevin Gafaiti, spécialiste de l'Iran. La situation explosive au Liban, le chef de la diplomatie française appelle à un cessez-le-feu et un retour aux arrangements négociés en 2024 avec Washington. Nous l'entendrons tout à l'heure. Et puis nous reviendrons sur cette loi visant à prévenir le risque d'attentat. Un texte qui divise, la gauche s'inquiète d'une possible dérive. Une ministre israélienne affirme que Benjamin Netanyahou doit s'entretenir avec le président libanais. Donald Trump avait lui aussi évoqué un échange entre les dirigeants des deux pays dès jeudi. Mais côté Liban, une source officielle assure n'avoir été informée d'aucun contact prévu avec Israël par les canaux officiels. En attendant, Benjamin Netanyahou fixe 2 objectifs aux négociations entre Israël et le Liban. Le premier ministre israélien cite d'abord le démantèlement du Hezbollah, puis l'instauration d'une paix durable fondée, selon ses mots, sur la force. Ces déclarations interviennent au lendemain de pourparlers directs entre les deux pays sous l'égide des États-Unis à Washington. Sur le terrain au Liban, les violences se poursuivent. 3 secouristes ont été tués dans des frappes israéliennes dans le sud du pays, selon le ministère de la Santé. L'armée israélienne affirme avoir visé plus de 200 sites du Hezbollah en 24 heures, tandis que le mouvement a tiré plusieurs dizaines de roquettes vers le nord d'Israël. Une délégation pakistanaise conduite par le chef de l'armée Asim Munir est arrivée à Téhéran pour poursuivre la médiation entre l'Iran et les États-Unis. Selon les médias iraniens, elle apporte un nouveau message de Washington après l'échec d'une première session de pourparlers ce week-end à Islamabad. Téhéran assure que les échanges se poursuivent mais répète qu'il n'acceptera pas de négociations dictées aux seules conditions américaines. Direction l'Ukraine où Volodymyr Zelensky affirme que la Russie ne doit bénéficier d'aucun allègement des sanctions après une nouvelle vague de frappes massives. Selon Kiev, Moscou a lancé 659 drones et 44 missiles en 24 heures, faisant au moins 16 morts et 100 blessés, notamment à Kiev, Odessa et dans la région de Dnipropetrovsk. En Turquie, l'adolescent de 14 ans, auteur de la fusillade qui a fait 9 morts dans une école de Kahramanmaras, avait planifié une attaque de grande ampleur, selon le parquet. Un document retrouvé sur son ordinateur daté le 11 avril évoque une opération majeure à venir. Les investigations se poursuivent pour éclaircir les motivations et les circonstances du drame. À l'Assemblée en France, la proposition de loi Yadam sur la lutte contre l'antisémitisme voit son adoption fragilisée, privée d'une partie du soutien du bloc central et contestée à gauche. Elle fait face à une forte opposition sur fond de débats sur la liberté d'expression. Son examen est incertain, notamment en raison de l'obstruction annoncée des députés insoumis. Et puis enfin, 115 auteurs publiés chez Grasset annoncent qu'ils ne signeront pas leur prochain livre dans cette maison. Il dénonce le départ d'Olivier Nora, qu'il qualifie d'atteinte à l'indépendance éditoriale, et met en cause Vincent Bolloré. Cette rupture collective inédite par son ampleur intervient à l'ouverture du Festival du Livre de Paris où la crise devrait nourrir les débats. C'est la fin de ce point de l'actualité. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve tout de suite pour le dossier du jour. Vous êtes bien à l'écoute de Radio Orient. Place à présent au dossier du jour. Le bras de fer se poursuit entre Téhéran et Donald Trump autour du détroit d'Ormuz. L'Iran menace de couler des navires américains dans le détroit. Dans le même temps, Washington annonce discuter de la tenue d'une deuxième session de négociation avec Téhéran et se dit optimiste sur les chances d'un accord. Cela intervient après la menace iranienne de bloquer la circulation en mer Rouge en réponse au blocus américain de ses ports. Dans ce contexte, quel élément plaiderait en faveur d'une prolongation du cessez-le-feu de 2 semaines en vigueur depuis le 8 avril? Les explications de Kevan Gafaiti, spécialiste de l'Iran, chercheur et enseignant à Sciences Po Paris.
Comme vous le dites, on a un cessez-le-feu qui est très branlant, mais qui est relativement fonctionnel. Ça fait un peu plus d'une semaine et on n'a pas eu une reprise massive des hostilités entre les États-Unis, Israël d'une part, l'Iran d'autre part. Vous avez toujours un seuil de tension qui est extrêmement élevé, puisque vous l'avez aussi dit, on a un blocus américain sur les ports iraniens qui se juxtaposent, se superposent au blocus iranien du détroit d'Ormuz par rapport au Golfe Persique. Et maintenant, par rapport à votre question, est-ce qu'il est possible de voir un cessez-le-feu se prolonger ? Eh bien, il y a quelques signaux faibles qui nous font peut-être penser qu'effectivement cela pourrait se faire. Déjà, il y a les déclarations pakistanaises qui disent, écoutez, on a un cessez-le-feu qui est théoriquement toujours fonctionnel et nous, on appelle toujours les parties à négocier. Et surtout, vous n'avez pas, je dirais, une fermeture complète des canaux interposés de discussion. C'est-à-dire que les États-Unis continuent de dire, eh bien, écoutez, nous, on estime qu'on devrait demander X, Y à l'Iran. Et l'Iran dit, pour qu'il y ait une cessation des conflits, on doit aussi demander X, Y. Donc vous avez des demandes pas directement formulées, ça c'est important de le mentionner, qui nous font comprendre que la voie de la discussion, même indirecte, n'est pas tout à fait close des deux côtés.
Alors, un pays est une victime collatérale de ce conflit. Il s'agit bien entendu du Liban. Le Hezbollah a attaqué Israël. Israël qui a riposté de manière particulièrement ferme. Le Liban qui semble victime de cette guerre aujourd'hui, avec un mercredi noir il y a 8 jours. Comment ce pays peut-il être aidé aujourd'hui et par qui ?
Le Liban paye les pots cassés du conflit israélo-américano-iranien. Quelles sont les personnes, les acteurs, les actrices qui vont aider justement le Liban? Déjà, il faut le souligner, la France, qui avait déjà apporté début mars plus de 60 tonnes d'aide humanitaire au Liban, qui apporte un certain soutien diplomatique. Et surtout, je pense, quelque chose d'assez notable indirectement pour le Liban, c'est la distanciation très large entre la France et Israël. Je pense que vous avez dû voir hier les déclarations israéliennes, c'était incroyable, et pas nécessairement dans le bon sens du terme. On avait une question qui était posée à l'ambassadeur d'Israël aux États-Unis, que pensez-vous de la France qui se tient à part de ces négociations? L'ambassadeur israélien qui disait, non, on est très content, il faut que la France se tienne le plus loin d'Israël partout. Alors que d'habitude, Israël et la France sont assez alignés, et la France qui a répondu très rapidement dans la voix de son ministre de l'Europe et des Affaires étrangères, Jean-Noël Barrot, qui disait, je pense que l'ambassadeur israélien doit se tenir à distance de tous les médias. Donc vous voyez qu'il y a une rupture diplomatique. Alors pourquoi est-ce que je parle de ça? Cela veut dire qu'en fait, vous avez une forme de distanciation d'Israël et c'est là où les Européens peuvent entrer un peu plus peut-être dans le jeu.
Kevan Gafaiti, spécialiste de l'Iran, chercheur et enseignant à Sciences Po Paris, au micro de François-Xavier de Calonne. Il doit impérativement y avoir un cessez-le-feu au Liban. Un appel ce matin du ministre français de l'Europe et des Affaires étrangères, Jean-Noël Barrot, qui affirme que Paris est en faveur à un retour aux arrangements négociés en novembre 2024 avec Washington en vue d'une désescalade. On l'écoute.
Il doit impérativement y avoir un cessez-le-feu au Liban, que nous puissions revenir aux arrangements qui avaient été trouvés grâce aux efforts déployés par les États-Unis et la France au mois de novembre 2024, qui avaient permis de mettre fin à une escalade meurtrière au Liban. Et que sur cette base-là, un travail coordonné entre le gouvernement libanais et le gouvernement israélien puisse s'engager pour désarmer le Hezbollah, pour restaurer l'autorité de l'État libanais qui doit disposer du monopole des armes, de manière à être en capacité d'assurer la sécurité sur l'ensemble de son territoire, au profit de toutes les communautés du Liban, et à vivre en paix et en sécurité avec ses voisins. Les, les attaques du 8 avril dernier qui ont ensanglanté le Liban et fait en moins de 10 minutes plusieurs centaines de morts qui viennent s'ajouter aux 1500 morts au Liban depuis le début de cette offensive étaient intolérables. Nous les avons condamnées avec la plus grande fermeté, notamment parce qu'elles fragilisaient un cessez-le-feu qui avait été trouvé entre les États-Unis et l'Iran, mais aussi parce que le Liban ne doit pas être la victime expiatoire de dynamique régionale ou de guerre qu'il n'a pas choisi, et que détruire le Liban ne permet pas de détruire le Hezbollah, au contraire, cela le renforce.
Jean-Noël Barrot, le chef de la diplomatie française. L'Assemblée nationale a adopté mercredi plusieurs articles d'une proposition de loi visant à prévenir le risque d'attentat. Parmi les mesures phares, la création d'une injonction d'examen psychiatrique pour des personnes soupçonnées de radicalisation. Un texte qui divise. La gauche dénonce une atteinte aux libertés fondamentales et s'inquiète d'une possible dérive. Marc-Aurel Barrès, vous nous en parlez.
Oui, mercredi, des députés du centre à l'extrême droite ont validé la création d'une injonction d'examen psychiatrique dans le cadre de la lutte antiterroriste. Alors qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Avec cette nouvelle mesure, un préfet pourra, dans le but de prévenir des actes terroristes, forcer certaines personnes à passer un examen psychiatrique qui pourrait être concerné, d'après le texte, deux critères à remplir: adhérer à des théories incitant ou faisant l'apologie d'actes terroristes et avoir eu des agissements susceptibles d'être liés à des troubles mentaux. En fonction des résultats du test, le préfet pourra prononcer une hospitalisation forcée.
La mesure a suscité des débats importants. Comment se sont articulées les oppositions?
Alors, et c'est là que ça se complique, la mesure divise. D'un côté, Laurent Nunez, le ministre de l'Intérieur, défend la loi. Elle permettrait, selon lui, aux services de renseignement de comprendre ce qui relève de la radicalisation et ce qui relève de troubles psychiatriques. Le but, assurer un meilleur suivi. A l'inverse, la gauche craint un texte qui porterait atteinte aux libertés fondamentales. Hendrik Davy, du groupe écologiste, a lui fustigé une mesure qui permettrait à un pouvoir d'extrême droite, je cite, d'enfermer et de psychiatriser des opposants politiques.
Autre mesure validée par l'Assemblée, une certaine rétention de sûreté terroriste. Qu'est-ce que ça veut dire?
C'est interner des personnes condamnées dans un centre de soins après leur peine. C'est déjà le cas pour d'autres crimes. Les individus concernés devront présenter une adhésion persistante à une idéologie incitant à commettre des actes terroristes. Ils devront aussi être atteints d'un grave trouble de la personnalité et avoir été condamnés à au moins 15 ans de prison. Côté réaction, Soumia Bourouaha, députée communiste, dénonce la bascule d'une justice des faits à l'anticipation d'un comportement futur. Fin de citation. Le ministre de l'Intérieur, lui, assure que le dispositif ne concernera que très peu de personnes. Le reste du texte doit faire l'objet d'un vote global le 5 mai.
Merci Marc-Aurel Barrès pour ces précisions. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Merci à Anis Guémery à la réalisation. Excellente suite de programmes sur Radio Orient.